Merci, bonjour. Vous allez bien? Voilà, qui était là il y a 3 semaines? Oui, il y a du monde quand même qui était là. Vous en faites pas pour ceux qui n'étaient pas là. Comme vous voyez le titre, Restauré par l'amour de Dieu, deuxième partie. Ça veut dire qu'il y a 3 semaines, il y a eu la première partie. Et je vais faire ce que je vous ai dit, c'est-à-dire la deuxième partie aujourd'hui. Mais si vous n'étiez pas là, il y aurait une petite séance de rattrapage, un petit résumé au début, qui vous permettra de vous remettre dans ce qui a été dit, d'une part pour ceux qui étaient là, et de voir où nous nous situons pour ceux qui n'étaient pas là. Donc, Dieu est un Dieu de restauration. Il restaure les peuples, il restaure nos vies, il restaure nos familles, il restaure nos êtres. Il est un Dieu de restauration. Et toute l'œuvre de Jésus trouve son sens dans le fait que Dieu veut restaurer une relation avec nous. Dieu est un Dieu qui restaure une relation qui a été brisée avec lui pour que nous puissions de nouveau être en communion avec lui. Amen. Et donc c'est la notion fondamentale, toute la Bible, toute l'histoire de la Bible, en fait, tourne autour de cela. L'histoire de la relation entre Dieu et les hommes. Et donc, nous passons d'un état de ruine pour aller vers un état restauré. Et le premier constat que nous avions fait il y a 3 semaines, c'est que, quelque part, nous étions en ruine. Mais Dieu est un Dieu de restauration. Et nous nous étions appuyés sur ce verset, le psaume 19, où il est dit que la loi de l'Éternel est parfaite, restaurant l'âme, le témoignage de l'Éternel est assuré, donnant la sagesse aux simples. Les commandements de l'Éternel sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement de l'Éternel est pur, il fait que les yeux voient. Et lorsque nous entrons dans l'obéissance envers Dieu, ce n'est pas une obéissance stérile ou une obéissance contrainte, une obéissance subie, mais l'obéissance à la loi de l'Éternel, la connaissance de la loi de l'Éternel, restaure l'âme. Mon âme est restaurée. J'acquiers de la sagesse. Et ça n'a rien à voir avec mon niveau de quotient intellectuel. Même au simple. Et on est tous simples, d'accord ? Dieu est beaucoup plus intelligent que nous. Donc nous acquérons de la sagesse. La sagesse, ce n'est pas seulement avoir de la connaissance, mais c'est savoir comment utiliser cette connaissance. Comment la vivre, comment la mettre en pratique de la façon à ce qu'elle soit la plus bénéfique possible. Les commandements de l'Éternel réjouissent le cœur. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas une contrainte. Ah, flûte, il faut que j'obéisse. Ça, c'est parfois les enfants qui font cela. D'accord, il faut encore que je range ma chambre. Non, il y a une réjouissance. Parce qu'on comprend les commandements de Dieu différemment. Et ce n'est plus une loi qui nous est imposée. Je rappelle que Jésus a dit qu'il est venu accomplir la loi, mais il a dit aussi que l'homme n'est pas fait pour le sabbat, mais le sabbat est fait pour l'homme. Il y a un rapport entre les deux. C'est-à-dire que je ne suis pas fait pour obéir stérilement, mais l'obéissance est faite pour me servir, pour m'épanouir. Donc c'est toute une autre compréhension. Et puis enfin, nos yeux voient des choses que nous ne percevions pas, nous allons pouvoir les apercevoir. Que ce soit des choses sur nous-mêmes ou des choses, des compréhensions par rapport à Dieu et à son royaume. Une nouvelle vision. Et donc, la loi apporte tout cela. Et vous vous souvenez, nous avons partagé d'un jeune homme riche qui vient vers Jésus dans Marc 10, et qui dit à Jésus, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Et nous avons vu que dans la vie de cet homme, ces 4 éléments, la joie, l'âme restaurée, une vision renouvelée, et excusez-moi, un cœur réjoui, ces quatre éléments n'étaient plus dans la vie de cet homme-là, même s'il suivait la loi, parce qu'il la suivait de façon religieuse. Mais nous avons vu aussi que derrière sa question, Jésus va lui répondre, personne n'est bon, si ce n'est Dieu. Et ça, c'est le premier constat. Si personne n'est bon, ça veut dire que moi aussi, qui suis devant vous ce matin, je ne le suis pas. D'accord ? Donc, arrêtez de mettre les prédicateurs sur un piédestal, ils sont comme vous. Ou un tel pasteur, ou tel homme de Dieu sur un piédestal, ils sont comme vous. Ils sont juste des personnes que Dieu, dans sa grâce, utilise, des serviteurs inutiles. Mais ça veut dire que vous aussi, vous pouvez être utilisé de la même façon, par la grâce de Dieu, en tant que serviteur. Ce qui est fou, c'est que Dieu fait quelque chose d'utile avec nous, alors que nous serions inutiles pour lui, il pourrait très bien se passer de nous. Mais c'est la grâce de Dieu. Et nous sommes tous dépendants, profondément dépendants de la grâce de Dieu. Sans la grâce de Dieu, je crois qu'on n'existerait même pas. Personne n'est bon. Et cet homme-là cherchait à faire qu'est-ce que je dois faire de bon pour hériter de la vie éternelle. Qu'est-ce que je dois faire de bien ? Et il y avait un premier problème, c'est qu'il est axé sur le faire. Mais ça, non, hein, on n'est jamais axé sur ce qu'on doit faire. Et puis, faire de bien, comment je peux mériter les choses ? Et Dieu lui répond simplement, ben, non, ce n'est pas là-dessus que se passent mes critères. Mes critères ne dépendent pas de ton état de bonté, de ton état de sainteté, de ton état d'obéissance. Le seul critère, c'est la bonté de Dieu envers ma vie. Et ça change tout. Et nous avions terminé sur la notion de se laisser aimer par Dieu. Parce que tout changement durable dans nos vies, toute transformation durable dans nos vies, toute restauration qui va demeurer dans nos vies, viennent du fait que nous acceptons de nous laisser aimer par Dieu. Et donc je vous ai cité cette parole de Jean, « Et quiconque se laisse pleinement aimer par Jésus sera affranchi des espoirs palliatifs, il verra son âme guérir progressivement et sera rendu par Dieu remarquablement bon et fidèle. L'amour de Dieu fera pour lui ce que l'énergie de la lumière fait pour un arbre, par la photosynthèse, elle le nourrit, elle le fait croître. » C'est très riche cette phrase. Se laisser aimer par Dieu. Amen. Est-ce que ça a été simple pour vous? Ah, il est revenu, Ibis, oui. Pour ceux qui n'étaient pas là dans mes prédications précédentes, vous avez un nouveau membre dans l'église qui s'appelle Ibiz. Et il intervient des fois, il interrompt les prédications. Ça va Ibiz ? Bien ? Allez, se laisser aimer, ce n'est pas si simple en fait. Hein. On ne va pas entrer dans l'intimité de notre couple, mais rien que cette semaine, on a eu un exemple flagrant de cela. Lise croyait me faire plaisir en faisant quelque chose et moi je l'ai interprété de la façon complètement opposée. Quoi. Elle me disait à travers un acte concret, je veux prendre soin de toi, et moi je l'ai compris par bon c'est bon, tu n'as rien à faire de moi, tu me rejettes. Quoi. Non mais c'était ça, hein, je caricature pas. Hein. Et en fait, c'est l'exemple de ça. C'est pas si simple de se laisser aimer. Je parle pas d'accepter l'amour de Dieu. De toute façon, Dieu vous aime, que vous l'acceptiez ou pas. Je parle simplement de dire, ok, j'accepte d'être au bénéfice de cet amour-là. Ok, je vais me laisser aimer par Dieu. Je ne comprends pas pourquoi il m'aime. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi un homme et une femme est attiré l'un à l'autre. L'amour, c'est inexplicable, hein, parfois. Hein. Vous êtes d'accord? Et heureusement, d'ailleurs, si on comprenait les relations chimiques, les relations sociales et tout ça pour créer une situation amoureuse, à un moment donné, l'amour viendrait qu'une suite de calculs mathématiques, c'est nul, quoi. Je suis content que mon épouse ne soit pas qu'une suite de calculs mathématiques et que notre relation soit plus que ça, quoi, avec des imprévus, plein de choses, quoi. L'amour est inexplicable. Et l'amour de Dieu pour vous, vous ne pourrez jamais l'expliquer, il est tellement grand. Mais il est inconditionnel. Il ne changera jamais. Il m'aime du même amour qu'il a aimé Jésus. Waouh. Oui, pas si simple, effectivement, de se laisser aimer. Enfin, il y a peut-être juste Ebis et moi qui ont ce problème-là, mais je parle peut-être dans le vide. Mais c'est vrai qu'on aurait vite tendance à revenir sur qu'est-ce que je dois faire de bien pour me laisser aimer. Qu'est-ce que je dois faire de bien pour être changé? Qu'est-ce que je dois faire de bien pour résoudre mon problème? Qu'est-ce que je dois faire? Et on se retrouve dans la même problématique que le jeune homme riche dont nous avons parlé il y a 3 semaines, ou dans la même problématique que Marthe et Marie. Vous trouverez cela dans Luc 10, à partir du verset 39. Marie, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et lui dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider. » Vous êtes d'accord que ça peut être une demande légitime. Jésus vient dans votre demeure. Votre épouse fait tout pour qu'il se sente bien. Elle prépare l'apéritif, elle prépare le repas. Elle donne un coup de balai avant qu'il vienne. Elle fait toute la déco, range un peu. C'est Jésus quand même, quoi. Et puis pendant ce temps, vous, en tant qu'homme, vous regardez faire, vous êtes content, Jésus va venir, quoi. Hein ? Et puis là, je trouverais légitime qu'elle dise, écoute, aide-moi un petit coup, quoi. Hein ? Fais un peu quelque chose, quoi. Hein ? N'attends pas. Et là, la situation est pire. Jésus est là et Marthe est en train de servir, de s'activer en cuisine, faire le service et tout. Et sa sœur, profite. Okay. Le Seigneur lui répondit, « Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. » Bizarre, hein, finalement, la demande légitime, Jésus va la décaler et lui dire, « Mais écoute, tu es un peu à côté, là. Tu t'actives. » Tu t'agites pour beaucoup de choses, tu veux faire plein de trucs pour me faire plaisir, pour bien m'accueillir. Mais une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne le sera pas ôtée. Quelle est cette bonne part? La bonne part, c'était qu'elle était assise aux pieds du Seigneur. C'est chouette ça. Et qu'elle écoutait sa parole. Et une vie restaurée commence au pied du Seigneur, quand je suis assis au pied du Seigneur. Ça commence là, une vie restaurée. D'accord ? Et lorsque nous écoutons sa parole, écouter, c'est un peu plus qu'entendre. Ça veut dire que je vais y prêter attention. Ça ne veut pas dire que je vais être d'accord avec tout. Ce n'est pas parce que vous écoutez quelqu'un que vous approuvez tout ce qu'il dit. D'accord ? Et lorsque nous faisons de la relation d'aide, ce n'est pas parce que nous comprenons une situation difficile de quelqu'un que nous sommes d'accord avec tous les choix que la personne a fait. Mais nous comprenons que la situation est difficile et que la personne ne peut pas en rester là, qu'elle a besoin de sortir de cette situation-là. Et ça se le fait en étant assis au pied du Seigneur. D'accord ? Et cette écoute de Dieu, pourquoi est-ce que je dois écouter la parole de Dieu ? Si nous comprenons bien la Genèse, nous avons été créés par la parole de Dieu. Dieu dit, et il y eut. Et Dieu dit, faisons l'homme. Et l'homme a été créé. J'ai été créé par la parole de Dieu. Et de la même façon que j'ai été créé par la parole de Dieu, ma vie va être restaurée par la parole de Dieu. Et c'est d'autant plus important que nous savons que la parole de Dieu, ce n'est pas juste une onde sonore, mais c'est une personne. C'est Jésus lui-même. Jésus est la parole de Dieu. Donc tout me ramène à cette communion, à cette intimité au pied de Jésus. D'accord ? Alors, on va commencer, comme Marie, par la meilleure part. Et c'est quoi la meilleure part ? La meilleure part, c'est d'être au pied de Jésus et d'écouter sa parole. D'accord ? C'est comme un feu de cheminée, la meilleure part. Lorsque je m'approche de Dieu, je reçois son amour qui restaure mon cœur. C'est exactement comme la chaleur d'un foyer qui me réchauffe et ôte la froideur de mon cœur dur, de mon cœur glacé. Vous avez pu avoir un cœur qui a été endurci, rendu froid, à cause de différentes circonstances de vie que vous avez dû traverser et qui étaient difficiles. Vous avez pu avoir un cœur qui a été blessé et vous avez dit plus jamais ça et vous avez mis une carapace qui a durci les choses. Vous avez pu avoir un cœur qui, à un moment donné, a eu du mal de digérer ce qu'on vous a fait. Ou un cœur qui a pas besoin qu'on nous fasse quelque chose, mais qui, à un moment donné, a fait un mauvais choix et se trouve empêtré et ne sait plus comment faire pour sortir de ce mauvais choix. Ou un cœur qui a pris une mauvaise habitude. Et cette habitude est devenue une addiction qui détruit votre vie, qui apporte un déséquilibre. Quelle que soit la raison pour laquelle le cœur a été rendu dur, froid, Dieu dit, approchez-vous de moi. Jacques 4:8 me dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Mais j'ai une bonne nouvelle, Dieu est déjà là. Vous n'avez pas besoin d'aller à 10 000 kilomètres et faire 10 000 choses pour vous approcher de Dieu. Seigneur, tu es là. Waouh. Vous vous rendez compte, le Dieu de l'univers, qui est plus grand que tout système de galaxies que nous pouvons connaître. Ce Dieu qui a tout créé. Ce Dieu qui est parfait, saint, glorieux. Et si Dieu n'est pas comme ça pour vous, changez de Dieu. Soit Dieu est Dieu et il est parfait, glorieux, majestueux, merveilleux, un père, ou soit ce n'est pas Dieu. Ce Dieu-là, parfait, glorieux, majestueux, est là, présent, dans vos cœurs, tout près de vous. Il ne faut pas aller chercher bien loin. La moindre pensée que vous avez, il entend parce qu'il est tellement proche qu'il entend même vos pensées. Quand l'Esprit, je l'entends de loin. Quand elle parle, il faut que je m'approche. Quand elle murmure, je dois encore m'approcher pour mieux entendre. Quand elle chuchote, là on est dans quelque chose d'encore plus proche, plus intime. Quand elle pense, non, je ne l'entends pas. Par contre, Dieu est tellement proche qu'il entend vos murmures, qu'il entend vos chuchotements. Il est encore plus proche. Et il est encore plus proche. Il entend vos pensées. Dieu a cette proximité-là avec vous. Il entend les soupirs inexprimés de votre cœur, de votre âme. Il entend les désirs que vous n'avez même pas osé formuler à haute voix. Il entend même les choses que vous ne voulez pas vous avouer à vous-même. Il entend même ce que vous, vous n'entendez pas dans votre tête. Dieu a cette proximité. Et Dieu est comme un feu qui vient me réchauffer. Et quel que soit mon vécu, quelle que soit la raison pour laquelle mon cœur a été endurci, pour laquelle mon cœur a été rendu comme un glaçon, Dieu est là et il me réchauffe. Et lorsque j'accepte d'être aimé par Dieu, voilà ce qui se produit dans mon cœur. Est-ce que je fais exprès de me réchauffer? Non. Vous savez, quand vous avez froid, il y a deux façons de se réchauffer. La première, c'est... Je vais bouger, hein. Je vais faire un peu de sport, je vais me bouger et tout ça. Et quand on a froid dans l'eau, des fois, on sait ce qu'on fait, quoi. Plonger dans l'océan, vous avez froid, bon, il faut bouger, quoi. Ça, c'est ce que nous, nous sommes capables de faire pour nous réchauffer. Mais c'est fatigant, hein. À un moment donné, c'est très fatigant d'être toujours en mouvement. Et parfois, on cherche la solution à nos difficultés en bougeant. Et ça nous fatigue d'autant plus. Et puis le résultat est assez passager quand même. Il suffit que vous arrêtez de bouger un petit temps, et là, c'est reparti. En plus, vous transpirez, ça ne dégage pas forcément de belles odeurs. Voilà ce qui se passe quand on est axé sur ce que moi je peux faire pour me réchauffer. Et l'autre façon, c'est de dire, il y a une source de chaleur. C'est Dieu lui-même. Et je vais m'approcher de cette source de chaleur. Parce que pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Et Dieu vient effectivement réchauffer. Est-ce que là, je dois faire beaucoup de choses? Non, je dois simplement accepter. Simplement être proche de cette source de chaleur. Et c'est ce que nous avons dit tout à l'heure, c'est pas si simple que ça, que d'accepter d'être réchauffé par Dieu. Et là, ce qui est glacé dans ma vie va fondre. Souvent, on est trop axé sur le faire. Alors que ce sont des choses que Dieu veut faire. D'accord? La restauration commence là. Alors, concrètement, nous avions terminé sur une dernière d'apôtre que nous... qui disait que nous étions restaurés pour devenir une habitation de l'Éternel. En effet, dans 2 Corinthiens 6, il est dit que nous sommes le temple du Dieu vivant. C'est-à-dire que quand vous restaurez une maison, le but, ce n'est pas de laisser la maison comme ça sans rien. Le but, c'est d'habiter la maison ou de la louer pour que quelqu'un d'autre y habite dedans. Si vous réparez un outil, le but, c'est que l'outil puisse à nouveau fonctionner, être utile. D'accord? Et Dieu veut restaurer ma vie. Comme on restaure une maison, il désire y habiter. Il ne va pas seulement rendre visite, il vient demeurer. Ça, c'est génial. Tous les jours jusqu'à la fin. Et Dieu ne prend pas de vacances en quittant la maison pour dire, bon, j'ai besoin de souffler un peu, le gars là, Emmanuel, il est gentil, mais j'ai besoin de vacances, quoi. Hein. Parce que demeurer toujours chez lui, c'est usant, quoi. À un moment donné, j'ai besoin de souffler. Non, Dieu ne fait pas ça. Dieu dit, je vais restaurer ta maison, ton être, pour pouvoir y habiter par l'Esprit. Et Dieu fait de nous un temple du Dieu vivant. Alors, je ne suis pas historien, mais juste un petit rappel. Le premier temple de Jérusalem a été construit par le fils de David, Salomon, à peu près au 10e siècle avant Jésus-Christ. D'accord ? Et ce temple va être pillé et détruit lors du siège de Jérusalem en 586 avant Jésus-Christ. Donc, pendant un certain temps, il n'y aura plus de temple, puisque le temple a été détruit. Et ça va durer 70 ans, parce qu'en moins 516, va être reconstruit sur les fondations du premier temple, va être reconstruit le second temple. Donc après la captivité des Judéens à Babylone. Donc c'est le gouverneur Zorobabel. Zorobabel, tu vas t'en souvenir ? Zoro, tu connais ? Tu connais pas le cavalier qui fait un Z avec son épée ? Si, la tour de Babel, tu t'en souviens ? Ouais. Donc t'imagines, t'as Zoro qui rentre dans la tour de Babel pour un peu faire la justice au milieu de tout ça, parce que ce tour de Babel, c'est une catastrophe, quoi. Et donc ça donne Zorobabel. Ok ? C'est bon, tu t'en souviens maintenant ? Et donc Zorobabel va travailler pendant une vingtaine d'années à restaurer le temple, à recréer un nouveau temple, ça va être le second temple, et il va être achevé en 516 avant Jésus-Christ. Ça fait quand même 70 ans sans temple. Ok. Et ça, c'est le second temple. Ensuite, il y a un autre gars qui s'appelle Hérode, qui va restaurer et agrandir pendant 8 ans le temple. Et cet agrandissement va débuter environ à moins 15 avant Jésus-Christ. Environ, on sait qu'à moins 4, la restauration est achevée. Cela veut dire que Jésus, quand il a posé les pieds dans le temple, c'était dans ce temple qu'on appelle le temple d'Hérode. En fait, c'est le second temple qui a été restauré, agrandi, amélioré, enfin, mettez les termes que vous voulez. D'accord ? Et donc Jésus connaît ce second temple. Et puis Jésus va annoncer qu'il ne restera pas pierre sur pierre à ce temple-là, et d'autres prophéties de l'Ancien Testament annoncent cela aussi. Et cela va avoir lieu donc 40 ans à peu près après la mort de Jésus, en plus 70 exactement, et le second temple va être détruit par les Romains à cause d'une guerre entre les Juifs et Rome. D'accord ? Et donc, c'est l'accomplissement de certaines prophéties. Mais, voyez, pourquoi je parle de temple ? Ah oui, parce que nous, maintenant, nous sommes des temples. D'accord ? Pas des temples de pierre que des hommes peuvent restaurer ou détruire, mais un temple que Dieu a construit. Et j'ai une bonne nouvelle, ce que Dieu construit, personne ne le détruit. Amen. Dieu veut construire quelque chose de durable dans nos vies, et de permanent. Mais en moins 516, il y avait un problème. Imaginez des gens qui ont entendu parler du premier temple. Et 70 ans après, on reconstruit un temple. Mais ce temple, ben, ça va demander 8 ans de construction, et les gens doutent, 70 ans sans temple, en plus ils sont déportés, ils ne sont même pas dans leur pays. Compliqué, compliqué. Et qu'est-ce qui se passe en moins 516 ? Les gens méprisent ce qui est en train de se faire. Et Zacharie va dire, de la part de l'Éternel, les mains de... Ouais, tu t'en es souvenu, il s'appelle Zorobabel. Les mains de Zorobabel ont posé les fondations de ce temple, et les mains le termineront. Et effectivement, 8 ans après, ça va être, 20 ans après, ça va être terminé. les mains de Zorobabel ont fondé les fondations de ce temple et les mains le termineront. Tu sauras que l'Éternel, le maître de l'univers, m'a envoyé vers vous. Et cela me parle de ma vie, puisque c'est moi aujourd'hui qui suis un temple. Et Dieu dit, Zorobabel, là on pourrait dire c'est une image de Jésus. La main de l'Éternel, la main de Jésus, a posé les fondations de ta vie, de ton être, du temple que tu es. Et ce que Dieu a commencé, il va le terminer. Il va aller au bout. Il va achever ce qu'il a commencé. Et c'est une promesse biblique que Dieu va au bout. Il est fidèle et juste. Et même si toi tu lâches, même si toi tu es infidèle, même si toi, à un moment donné, tu ne comprends pas et tu baisses les bras, Dieu, lui, demeure fidèle. Et Dieu ne va pas se renier lui-même. Il va continuer son œuvre de restauration en toi parce qu'il t'aime de cet amour incompréhensible. Et tu sauras que le Dieu de l'univers, celui qui est grand, majestueux, glorieux, tout ça, il est vers toi. Amen. Et Zacharie va dénoncer l'attitude de ceux de son époque qui voient le début de la reconstruction du temple. Ceux qui méprisaient le jour des petits commencements se réjouiront en voyant la pierre d'étain dans la main de Zorobabel. Et là, il dénonce une attitude. Il est en train de dire: ne méprisez pas. Ne méprisez pas les petits commencements. Et nous aussi dans nos vies, ne négligeons pas les petits commencements. Parce que j'ai toujours remarqué que Dieu est tellement humble que même les œuvres les plus grandioses commencent humblement. Jésus commence comme un bébé, rejeté, dans une mangeoire. Génial comme début, hein ? On parle du roi des rois, de celui qui va régner sur toute l'humanité. Humble commencement. Et notre salut commence par quoi de plus humble que mourir sur une croix ? C'est même humiliant, c'est même plus de l'humilité, c'est de l'humiliation. C'est en plus humble que humble. Et c'est la plus grande œuvre qui ait jamais existé dans l'histoire de l'humanité. Ne négligeons pas les petits commencements. Ah oui, il y avait cette phrase, ce proverbe chinois. N'oublie pas que même le plus grand chêne a été un gland. Non, je ne vous ai pas traité de gland, hein, mais... Même le plus grand chêne a commencé par un gland. Et parfois, dans nos vies, on rêve. Et ce rêve est légitime. On rêve de grandes choses. On rêve de grandes libertés. On rêve de grandes guérisons. Et c'est légitime, et je le comprends. Et moi aussi, lorsque je souffre, je rêve de grandes choses. Et même quand je ne souffre pas, oui. Mais ces grandes choses, souvent, commencent par des petites. Et parfois, on ne voit pas le rapport. Vous prenez un gland et vous prenez un chêne. Comparaison. Vous vous rendez compte que dans ce gland, il y a un tronc qui fait plusieurs mètres de haut. Il y a des feuilles. Non, moi, je ne le vois pas. D'accord ? Mais avec le temps, ce gland va être transformé. Il va grandir et va devenir effectivement un chêne. La croissance implique du temps. Dieu ne fait pas de préfabriqué. Il produit des êtres vivants. Le préfabriqué, vous venez, vous assemblez les éléments, bon, c'est construit, il n'y avait rien, maintenant il y a quelque chose. Mais Dieu, lui, veut construire quelque chose de solide, de durable. Le problème, c'est que le temps de Dieu n'est pas tout à fait le même que notre temps à nous. Mais je vous assure, ce que Dieu commence, il va l'achever. Il maîtrise les choses. Et souvent, on croit que c'est ce que nous faisons qui produit le changement. Mais en fait, pour grandir, je ne me suis pas tiré sur les cheveux pour grandir plus. Hein. Ce n'est pas pour ça que j'ai des cheveux un peu plus courts aujourd'hui quoi, qu'il y a 3 semaines. J'ai voulu grandir, j'ai tiré dessus. Non, ça ne marche pas comme ça. Vous ne grandissez pas parce que vous tirez sur quelqu'un pour l'allonger. Non, vous grandissez par un processus naturel. Vous êtes nourri, vous respirez, vous recevez de l'amour, vous allez grandir. Vous allez me dire, mais moi, j'ai pas reçu de l'amour, j'ai pas été bien nourri, et puis on m'a pas donné de bons conseils, et puis vu ce qui m'est arrivé, j'ai pas pu grandir, j'étais enfermé dans une boîte, je pouvais pas grandir comme il faut. Oui. Approchez-vous de Dieu. Lui va nous nourrir. Lui va aussi nous guérir. Lui va nous apporter l'amour dont nous avons besoin. Mais ce n'est pas si simple. Ce n'est pas si simple parce que souvent, quand nous avons manqué de cet amour-là, notre premier réflexe, c'est lorsque cet amour se présente, c'est de le rejeter. Et c'est compréhensible. Mais tout le quelque part, le travail de relation d'aide, c'est d'aider la personne à vivre cet amour de Dieu. Le changement est produit par la croissance. D'accord ? Parce qu'il y a eu croissance, le gland s'est transformé en arbre, un grand chêne. Ce n'est pas la croissance. Le changement ne produit pas la croissance, c'est la croissance qui produit le changement. Ça va dans ce sens-là. Et parfois, on croit que pour gagner en maturité, il faut que je change. Et Dieu te dit, non, c'est l'inverse. Je vais te faire gagner en maturité. Parce que tu vas avoir de l'expérience avec moi. Et cette expérience va produire le changement. Ça marche dans ce sens-là. L'instantané, on est toujours dans, nous négligeons pas les petits commencements, mais l'instantané s'inscrit dans un processus. J'en ai déjà parlé. Lorsqu'on passe du versant d'une montagne de l'autre côté, par un col par exemple, le changement se fait rapidement. Mais ce changement rapide, il a demandé quelque chose avant. Il a demandé de me gravir jusqu'au point de bascule, jusqu'au col. D'accord ? Le sommet, c'est l'instantané. Et en 2015, j'ai vécu quelque chose d'instantané dans ma vie. C'était 2015, le 3-10. Comment ? 14 ? Waouh ! J'ai vécu quelque chose d'instantané dans ma vie. J'ai été retourné comme une crêpe. Mais comme je le dis souvent, avant de pouvoir retourner la crêpe, ben, il faut faire la pâte. Puis avant de faire la pâte, il faut récolter le blé pour faire la farine. Et avant de récolter le blé pour faire la farine, il faut labourer, semer, tout ça. Donc tout ça, ça a pris du temps pour qu'un jour une crêpe soit retournée. Et j'ai été cette crêpe retournée un jour. Mais si j'ai pu être retourné de façon instantanée un 3 octobre, c'est parce qu'il y a eu des années avant de prière, d'intercession et de travail de Dieu dans mon cœur. D'accord ? Donc oui, je crois aux guérisons instantanées. Oui, je crois aux miracles spontanés de Dieu. Je suis le premier à les annoncer. Mais je sais que derrière tout miracle spontané de Dieu, il y a parfois des dizaines d'années d'intercession et de prière pour qu'un jour la crêpe puisse être retournée. Et en fait, dans toute souffrance, il y a ce travail difficile de monter au sommet pour qu'un jour les choses basculent. Et là, sur l'image, la personne est seule à pousser sa pierre. Mais le but, c'est que vous ne soyez pas seul. Déjà, Dieu est là. Vous allez me dire, oui, mais ça ne change pas grand-chose sur ce que je vis. Mais ça change tout, en fait. Parce que sans Dieu, sans la grâce de Dieu, je ne mériterais même pas d'être là. Et ensuite, Dieu nous plonge au sein d'une famille avec des frères et des sœurs. Et une famille qui est censée, qui est là pour nous soutenir les uns les autres. Et Dieu nous inclut dans cette famille-là. Et vous avez besoin des frères et des sœurs, tout comme j'ai besoin de frères et de sœurs, pour m'aider à porter cette pierre-là. Ce n'est pas une option. C'est parce que Dieu est un Dieu de famille et de relations. Et on croit qu'une fois qu'on a fait le travail, qu'on a bousculé, que tout est simple. Mais si vous faites de la randonnée en montagne, moi personnellement, les montées, j'aime bien. Parce que je trouve que mon effort est rentable. Le plat, j'aime pas. Les montées, j'aime bien. Je trouve qu'il y a une harmonie entre le poids du sac à dos, le pas, la cadence et tout. Ça me convient bien. Mais par contre, les descentes, les genoux, les orteils qui viennent taper contre le bout de la chaussure. Ouais. En plus, si vous n'êtes pas bien équipé, les chaussures qui glissent. En montée, les chaussures glissantes, ça va encore, on arrive à gérer. Mais en descente, c'est terrible, quoi. Et on croit que parce qu'il y a eu le point de basculement, ça y est, je suis guéri, c'est bon. Et en fait, il y a la descente, parce que votre marche ne s'arrête pas au sommet en disant bah, « je suis bien ». Quoi. Hein ? Un jour, Jésus est allé au sommet avec ses disciples. Super ! La gloire de Dieu apparaît, Pierre, ouah ça, ouah Seigneur, on va planter la tente dans cet endroit, hein, c'est vraiment génial. Quoi. Et Jésus dit « non, on redescend dans la vallée ». Et dans la vallée, il y avait quelqu'un à délivrer. Les descentes sont parfois difficiles. Première descente que vous allez vivre, c'est le lundi quand vous allez au boulot, quoi. Après un super culte dimanche, quoi. Et puis là, je redescends et la descente est difficile. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que oui, j'ai été retourné comme une crêpe un certain jour, mais derrière, j'ai dû réapprendre à vivre de l'autre côté. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui a toujours eu l'habitude de marcher avec une canne, la jambe raide. Une marche un peu bizarre. Voilà, je marche un peu bizarre. Ok ? Et un jour, cette personne est guérie. Elle laisse tomber la canne, mais je continue de marcher comme ça. Parce que j'ai l'habitude de marcher comme ça. Et j'ai besoin de réapprendre à marcher de la bonne façon, de la nouvelle façon. Un jour, Jésus va sur une île et là, il y a quelqu'un qui est complètement possédé, qui vit dans les cimetières et tout, et Jésus le délivre comme ça, pomme. Et la personne se retrouve tout dans son bon sens. Et la personne... La personne dit à Jésus, je veux te suivre. Et que fait Jésus ? Génial, un nouveau disciple, viens, suis-moi. Non. Il le renvoie dans son foyer. Il le renvoie auprès des siens. Pour qu'il réapprenne à vivre après sa guérison de façon normale. Parce que souvent, nos souffrances, même lorsqu'elles sont guéries, peuvent continuer d'avoir un impact dans nos vies. Parce qu'elles nous ont fait prendre de mauvaises habitudes. Parce qu'elles nous ont conduits dans certaines dimensions de crainte et de peur. Et nous devons réapprendre à vivre. Parfois, dans les couples, c'est ce qui se passe. Une dame vient nous trouver, j'aimerais que mon mari change. Bon, en général, ça ne marche pas trop comme ça. Mais toujours est-il qu'un jour, le mari accepte de changer. Et là, que ce qui se passe, bizarrement, c'est que le conjoint a tendance à freiner des deux pieds. Parce que si le mari change, même si c'est en bien, même si ça fait des années que j'ai espéré ce changement-là, ça veut dire que nos relations vont changer. Ça veut dire que les choses que je faisais avant, ben, ça va changer aussi. Je dois réapprendre à comprendre l'autre et à vivre avec quelqu'un qui a changé. Et ce n'est pas un défi si simple. Tu es d'accord, Lise ? La crêpe, c'est bizarre, quoi. Parce qu'avant, le gars, il avait une réaction qui était ce qu'elle était. Pas terrible, mais elle était là. Et d'un seul coup, il n'a plus du tout cette réaction-là. C'est quand même déstabilisant. Et derrière toute guérison, il y a une période de convalescence. Et la guérison ne consiste pas donc seulement à gravir la montagne pour franchir le col, mais à apprendre à faire cette descente pour pouvoir revivre de façon normale, équilibrée, saine, juste même dans leur relation avec autrui. Parce que derrière la guérison, l'action de Dieu ne s'arrête pas. Elle continue et nous devons réapprendre à vivre en étant guéris. Amen. Et parfois, c'est là où de vieux réflexes peuvent revenir. On va terminer un petit peu, on va avancer. Pas à pas. Les petits commencements se font toujours un pas après l'autre. La lumière de Dieu éclaire nos pas. Et donc nous allons avancer petit à petit, pas à pas avec Dieu. Pas à pas sur le chemin. OK ? Et là, il faut savoir que dans nos vies, il existe trois domaines. Et c'est important de distinguer les trois domaines. Il y a ce qui se trouve là, à mes pieds. C'est le domaine qui est en mon pouvoir, sur lequel je peux agir. Je peux effectivement dire, Seigneur, je ne comprends pas ton amour. Je ne comprends pas comment ça va fonctionner dans ma vie. Mais heureusement que la restauration ne dépend pas de ce que je comprends. Mais c'est toi. Alors j'accepte ton amour dans ma vie. Je vais prendre du temps simplement avec toi pour recevoir la chaleur qui va transformer mon cœur. Ça, c'est devant moi, pas à pas. Et parfois, lorsque nous aidons les gens, nous leur demandons des actions concrètes. Pas des choses abstraites, trop loin, trop. Mais des choses très concrètes. Et les gens, au début, ont peut-être du mal de le faire, ou en tout cas ne voient pas leur rapport avec la guérison. Mais c'est parce que c'est quelque chose de concret qui se présente devant toi. Pas à pas, tu peux avancer là-dedans. C'est en ton pouvoir. tu as la capacité d'agir là-dessus. Et souvent dans la souffrance, ce sont des petites choses. Ça sert à rien de vouloir faire de grandes choses. À partir de demain, je vais lire 3 chapitres par jour de la Bible. Non, si tu lis déjà 1 verset par semaine, je suis content. Hein. Si ce verset te nourrit et te transforme. D'accord ? Ne prenons pas des grandes décisions comme si nous avions le pouvoir de tout. Parfois, les gens, dans ce qu'ils ont vécu, n'ont pas la force de pardonner. On ne va pas aller vers eux en disant « tu dois pardonner ». C'est quoi ça ? C'est n'importe quoi. La personne est en train de souffrir. Il n'y a pas un « tu dois » qui tienne. On sait que le pardon va intervenir le long du chemin. Mais pas comme une exigence pour être guéri. Ce sera même peut-être en fin de guérison, comme un signe que la personne a été guérie et restaurée. Et là, elle va pouvoir dire « ouais, je lâche les choses ». Le pas à pas, c'est un pas que je suis capable de faire, pas un pas qui est inaccessible. Et parfois, la souffrance est telle que dire à quelqu'un « là, tu dois pardonner », on se plante complètement. C'est biblique de pardonner, mais ça s'inscrit dans un processus, dans une transformation que Dieu fait dans nos vies, dans une guérison. D'accord ? Et parfois, je dis même pas ça à personne et quelques semaines après, on voit que dans son cœur, elle l'a fait. Parce qu'elle a cheminé, pas à pas. Donc un pas que je suis capable de faire. Et souvent, moi, je ne vois pas ce pas-là. J'ai besoin que quelqu'un d'autre me dise, ben ça, tu pourrais faire, par exemple. Un jour, quelqu'un a donné le conseil à une autre fille, tu ne peux pas faire grand-chose. Mais 10 minutes de ménage par jour, 5, ça a commencé à 5. 5 minutes de ménage par jour, est-ce que tu peux faire ça? Vous allez me dire, c'est pas grand-chose, 5 minutes. Le temps que je prenne le balai, ça y est, 5 minutes sont passées, parce que moi, le temps que je cherche où il est, le balai... Mais en fait, non, c'était un super conseil qui est là, parce que c'était accessible, parce qu'elle pouvait le faire, ça l'a remotivé, ça l'a dynamisé. Oui, il y a quelque chose qui se passe. Puis nous, ça nous a fait du bien, en tout cas à toi, Lise. Parce que c'est... Voilà. Ce qui est en mon pouvoir. Ensuite, vous avez les oiseaux. Les oiseaux, ils ne sont pas en votre pouvoir. Mais par contre, vous pouvez avoir de l'influence dessus. En faisant des grands gestes ou en les menaçant, ils peuvent s'envoler plus loin. Ou bien en mettant des miettes de pain, vous pouvez les attirer. D'accord ? Ils ne sont pas en votre pouvoir, mais vous avez de l'influence. Votre conjoint n'est pas en votre pouvoir. Ah, désolé. Mais vous pouvez influencer son bien-être. Ou son mal-être. Donc, ce qui est en votre influence. Et troisième élément, le soleil, l'eau, la température de l'eau, l'horizon, c'est ce qui est hors de votre portée. Les choses que, ben, oui, ça ne dépend ni de vous, ni d'autres influences. Et vous savez quoi ? Souvent dans nos difficultés, on a envie de toucher ce qui est hors de notre portée et de ne pas s'occuper de ce qui est finalement en notre responsabilité. Et nous avons besoin d'être souvent accompagnés pour réaliser « Ok, ça c'est hors de ma portée. » Mais si vous allez dire « Mais si c'est ce truc-là hors de ma portée qui me pose problème, je fais comment ?» Ben, on va commencer par pas à pas. Parce qu'un jour, ce chemin vous amène vers ce qui était hors de votre portée. Mais si vous voulez commencer directement par ce qui est hors de portée, vous ne l'atteindrez jamais. Et Dieu va rendre ce qui est impossible, va le rendre possible. Et la prière, c'est cela. Vous vous souvenez de la prière des alcooliques anonymes ? Je vous l'ai mis là. Mon Dieu, Donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, ce qui est hors de portée, et le courage de changer les choses que je peux, ce qui est en mon pouvoir, et la sagesse d'en connaître la différence. Soyons sages pour connaître ce qui est finalement de notre sort et ce qui ne l'est pas. C'est un chemin de changement. Mais en fait, ce n'est pas la meilleure nouvelle. Parce que la meilleure nouvelle, c'est celle-ci. Dieu même si je ne change pas. Waouh! Bon, on va la répéter. Dieu m'aime, même si je ne change pas. On croit tous à l'amour inconditionnel de Dieu. Alors pourquoi est-ce que nous voudrions conditionner cet amour au changement dans ma vie? Vous savez, si je suis focalisé sur « je veux changer », ça ne marchera pas parce que je vais être axé sur « qu'est-ce que je peux faire de bon ?» Mais si je suis focalisé sur « Seigneur, tu m'aimes et j'accepte ton amour », alors il y a la chaleur de Dieu qui va venir dans ma vie. Et oui, il y a des choses qui vont changer. Mais qu'elles changent ou qu'elles ne changent pas, la chaleur de Dieu est là. L'amour de Dieu est là. Oui, ça va produire du changement. Mais le changement n'est pas une exigence de Dieu. Vous allez me dire, pourtant dans la Bible, il est marqué « repentez-vous », ça veut dire « changer de mentalité ». Quoi. Ok. Mais le changement de mentalité, c'est quoi? C'est que avant, je me tenais loin de Dieu. Et aujourd'hui, je change de mentalité. Seigneur, j'accepte que tu sois très proche, tellement proche que tu es dans ma vie. C'est ça le vrai changement. Et ce changement-là va transformer mon être. Alors, l'évangile est un scandale, est une folie. Parce que souvent dans les milieux chrétiens, on dit « Dieu t'aime, mais il t'aime tellement qu'il ne va pas te laisser comme tu es. » Et derrière, on va me dire « t'as intérêt à changer, quoi. Toi, tu te droguais, maintenant t'arrêtes ça, quoi. » Et Dieu procède autrement. Je t'aime, même si tu es drogué. Et même si tu te bats encore avec ce produit-là. Même si tu te bats encore avec ta dépendance. Je t'aime. Et cet amour-là ne sera jamais conditionné au fait que tu arrives à t'en sortir ou pas. Parce que même quand tu es au plus profond du trou, je t'aime et je suis avec toi. Et c'est parce que je suis avec toi qu'un jour, tu pourras dire au revoir à la drogue. Et ça change tout. Vous comprenez le principe? Ça change tout parce que ce n'est pas lié à ce que j'ai réussi à faire moi. C'est lié à ce que Jésus a accompli pour moi un jour sur une croix. Et ce n'est plus mes efforts. Parce que si j'ai fait des efforts pour en sortir, il faudra que je fasse des efforts pour ne pas retomber. Et ce n'est pas ça que j'appelle être libre. Amen. C'est que si Dieu a tout accompli, alors je peux avoir confiance que lui va veiller sur mon chemin. Et du coup, les choses sont comme dédramatisées. Dieu continue de m'aimer. Et c'est parce que je suis dans cette position-là, sous l'amour de Dieu, que ma vie va être transformée. Amen. Donc, en résumé, Dieu t'aime. Ne sois pas stressé à devoir changer absolument. Déstresse. L'amour de Dieu ne changera jamais pour toi. Et ça vous semble peut-être trop théorique, trop superficiel. Mais ça marche vraiment comme la chaleur d'un radiateur. Vous n'avez rien fait pour la produire, c'est Dieu qui a tout accompli. Qu'est-ce que je dois faire de bon pour être sauvé, pour être guéri, pour être restauré? Seigneur, merci pour ton amour. Je commence par là. Et je continue comment? Seigneur, merci pour ton amour. Et en faisant ça, j'ai fait un pas vers Dieu. Ah ouais, là, Seigneur, toi tu m'aimes. Je suis peut-être à côté de la plaque, mais toi tu m'aimes. Et ce qui m'éloignait de toi va s'en aller parce que je m'approche de toi. Amen.